Écoutez, moi j'ai une tendance à utiliser la formule dans mes articles depuis maintenant le début de la décennie 90, la formule de pyromane-pompier. Je ne crois ni à une thèse d'un complot, ni d'ailleurs à une homogénéité, parce qu'elle est évidemment pas réelle. Il n'y a pas d'Union européenne consistante, il n'y a pas de politique extérieure commune. Et il n'y a pas non plus d'ailleurs de stabilité, même dans le temps, des politiques menées au niveau, disons, des alliances et des choix. Bon. Donc les choix de l'Allemagne initiaux n'ont pas été les mêmes que ceux de la France et de la Grande-Bretagne. Et je pense qu'avant 1991, c'est-à-dire le début des sécessions explicites, hein, de l'éclatement de la Yougoslavie, je pense que aussi bien les États-Unis qu'une partie importante de ce qu'était alors la communauté économique européenne n'était pas pour l'éclatement yougoslave et craignait principalement une déstabilisation. Alors ça ne veut pas dire qu'en même temps il n'y a pas une exploitation par les différents gouvernements des différenciations ou des conflits pour faire avancer leurs propres intérêts. Ça c'est le deuxième point, c'est-à-dire que je pense que si vous voulez, je crois qu'il y a des grands enjeux géostratégiques qui ont été mis en œuvre au même moment que la crise yougoslave survenait. Il faut se rappeler quand même que la chute du mur de Berlin, c'est 89, donc la dissolution du pacte de Varsovie et l'éclatement de l'URSS, c'est 91, et la crise yougoslave survient en ce moment-là. Un des enjeux fondamentaux, géostratégique du point de vue des États-Unis, ça a été notamment d'empêcher que se construise une Union européenne ayant une politique extérieure autonome par rapport aux États-Unis, donc réaménager et remettre, redéfinir et redéployer l'OTAN et réintégrer l'Union européenne dans un cadre atlantiste. Donc le premier élément du bilan, c'est que les États-Unis ont réussi sur ce plan-là et qu'il y a eu une évolution de la construction européenne qui a bifurqué vers un cadre euro-atlantiste. Deuxième aspect, ce sont les évolutions, si vous voulez, des choix socio-économiques qui sont à l'arrière-plan de ce qui s'impose, pas simplement dans les Balkans, mais notamment dans les Balkans. C'est-à-dire le tournant à partir de 86 de la construction européenne avec l'acte unique, le grand marché, la libre circulation des capitaux et des politiques néolibérales, des privatisations. Et après la chute du mur de Berlin, une accentuation de critères monétaristes, de critères économiques, de retrait de l'État social, qui signifie que sur le plan économique, les choix principaux n'ont pas été d'élargir un budget européen afin de pouvoir accueillir ce qu'on prétend accueillir. C'est d'abord les pays d'Europe centrale et orientale, mais c'est aussi les Balkans de l'Ouest. Ça a été réaffirmé au Conseil de Thessalonique en 2003. Donc il y a un grand écart entre les déclarations de recomposition du continent, d'intégration des Balkans de l'Ouest et notamment donc des pays dont on parle là, et puis les choix budgétaires, et puis surtout, je pense que les politiques préconisées, et qui sont préconisées comme des dogmes, les privatisations, que ce soit au Kosovo, que ce soit en Macédoine, en Serbie, etc., sont présentées comme des critères, des marqueurs en quelque sorte, de la rupture avec l'ancien système. Il y a derrière cela une désintégration socio-économique désastreuse. Et alors, c'est le troisième point. Je pense que cette désintégration économique n'est pas maîtrisée. Et elle aboutit aussi au plan politique dans les Balkans, à la recomposition, alors à la désintégration d'une fédération, un État et d'un système à la fois, derrière lequel il y a une course des différents États issus de l'ex-Yougoslavie pour l'appropriation des territoires, des richesses, des privatisations, des devises et pour une insertion en ordre dispersé dans l'Union européenne. Autrement dit, l'Union européenne, de fait, même si ce n'est pas ce qu'elle voulait, a eu un rôle désagrégateur par les politiques menées, alors avec en plus la première guerre de l'OTAN de son histoire, qui, loin d'avoir stabilisé la région, l'a déstabilisée encore davantage. Ça n'est pas impossible, bien sûr. Il y a une instabilité, on la connaît d'une part pour la Bosnie-Herzégovine, avec des menaces de référendum du côté de la Republika Srpska, c'est-à-dire l'entité serbe de Bosnie-Herzégovine. Il y a une instabilité sur les frontières même, d'ailleurs, du Kosovo, hein, sur la partie, la vallée de Preševo, où il y a des villages albanais, ou sur quel est le sort et l'avenir et, des populations serbes elles-mêmes. Et puis, il y a évidemment la possibilité en Transnistrie, en Abkhazie, en Ossétie, etc., d'utiliser évidemment cette dynamique. En Géorgie, donc, vous avez l'Abkhazie, l'Ossétie, vous avez aussi donc, la Transnistrie par rapport à la Moldavie, et vous avez bien évidemment dans la construction européenne elle-même toute une série d'enjeux dans l'État espagnol où vous avez aussi d'ailleurs parmi les pays membres de l'Union européenne les questions de Chypre bien sûr et puis les minorités nationales y compris d'ailleurs albanaises que ce soit en Grèce ou que ce soit en Slovaquie du côté hongrois etc. Donc vous avez tout un ensemble de questions nationales qui ne sont pas résolues. Mais il ne faut pas non plus croire que l'exemple du Kosovo va forcément inspirer toutes ces situations-là dans une dynamique de séparatisme, parce qu'il y a à chaque fois des contextes concrets et que dans chaque cas de figure, il y a du pour et du contre dans les choix, et que la façon de défendre ses intérêts n'est pas forcément par une stricte séparation, mais par des revendications, comme ça s'est fait un peu en Macédoine. Par exemple, vous avez 25% d'Albanais. Un des éléments qui a un peu stabilisé la Macédoine après 2001, notamment dans les accords d'Ohrid, ça a été... pour éviter que précisément la population albanaise se tourne vers une logique de séparatisme, plutôt une logique de consolidation des droits à l'intérieur des États. Et je ne pense pas qu'il y aura, sur le plan même, au-delà des risques, si vous voulez, d'éclatement des frontières, le principal problème d'instabilité est socio-économique et politique et le fait qu'il n'y a pas de cohérence d'ensemble de la région et de la construction européenne. Je crois que c'est ça l'enjeu majeur.